Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous venez d'écouter VibraSOS avec Enrique, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Et juste après, tous les samedis, entre 12h et 13h, nous parlons de l'actualité scientifique. C'est Biotine, l'émission de science qui fête ses 15 ans déjà. Mon Dieu, bah ça ne nous rajeunit pas, Carole, alors ?
Eh bien oui, qu'est-ce que le temps passe vite.
Bonjour Carole, comment vas-tu ?
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous. Et ça va très bien.
Il y a l'actualité scientifique qui n'arrête pas, en fait. On n'a jamais de pause.
On
ne
s'est plus donné de la tête, là. 15 ans que... Enfin, du coup, moi, je n'étais pas là, mais toi, ça fait 15 ans.
Ça fait 15 ans où je démarrais, effectivement, derrière le micro de Graphite. Alors, le studio a un peu changé, quand même.
Hein, il s'est modernisé, ouais.
C'est vraiment modernisé. On a vraiment du matériel qui est quand même assez performant. On avait démarré, voilà, avec des grosses consoles, avec des câbles un peu partout. Puis là, ça devient maintenant presque miniaturisé. Tu vas voir, ça va être... Non, c'est un superbe studio, une superbe équipe, bien sûr. Et donc 15 ans derrière le micro, c'est une vraie fierté et je ne me lasse pas parce que l'actualité scientifique n'arrête jamais. Et on voit très bien que, qu'on est en train d'être, au seuil d'un monde totalement fascinant avec l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas. L'espace, évidemment, je vous ai dit depuis des années que cette décennie 2020 va être géniale au niveau de l'espace. Il y a un article qu'on évoquera peut-être tout à l'heure qui fait qu'on va peut-être encore aller beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt sur Mars pour Elon Musk. Oui, Elon Musk, lui, il a dit on ira plus tôt. Donc moi, je le crois. Donc on verra tout ça. Et on voit au niveau médical également les avancées qui sont totalement intéressantes. Nous sommes aujourd'hui le 28 octobre. Au niveau de l'éphéméride, en 1948, le chimiste suisse Paul Müller reçoit le prix Nobel de médecine pour la découverte des propriétés d'un insecticide, le DDT. C'est assez étonnant qu'un prix Nobel soit décerné pour un insecticide.
Mais parce qu'à l'époque,
c'était important.
Oui. Voilà,
en 1948. En 1952, pour la première fois dans l'histoire de l'aviation française, c'est un appareil français, un Mystère 2 qui franchit le mur du son. En 1952 quand même, ça c'est impressionnant. Le premier vol d'un Airbus en 1972, hein, c'était l'Airbus A300. Et une fusée Ariane place sur orbite TDF-1, le premier satellite français de télévision en 1988. Naissance d'Elie Fallette Remington. Qui sait ? On sait simplement qu'il est né un 28 octobre 1793 aux États-Unis. C'est un ingénieur et un industriel américain, Elie Fallette Remington. Il était forgeron et à 23 ans, il fabrique un fusil révolutionnaire utilisant un mécanisme acheté à un négociant et un canon de sa propre fabrication. Et oui, Remington.
Mais oui, maintenant que tu me le dis, oui, bien sûr qu'on connaît.
C'était
évidemment
un piège. L'arme reçut un accueil enthousiaste et Remington décida d'engager une production en série et pour ce faire, il crée la société Remington and Sons, parce qu'il avait des fils, qu'il va diriger jusqu'à son décès en 1861. Au milieu du 19e siècle, cette arme est devenue très populaire et fut l'une des armes les plus utilisées durant la conquête de l'Ouest. Sa société continua à développer sa production et petit à petit développa d'autres fabrications comme notamment des bicyclettes, des bicyclettes, aucun rapport avec des fusils, mais bon, c'est toujours, toujours du fer derrière, on va dire, du métal. Mais voilà, Remington.
Eh bien, merci de nous apprendre ça.
S'appelait Elie Fallette.
Je connaissais en effet pas ses prénoms, et tout à fait.
Décès le 28 octobre 1703 de John Wallis, mathématicien anglais. Ses travaux sont précurseurs de ceux de Newton. Il est également précurseur de la phonétique, de l'éducation des sourds et de l'orthophonie. John Wallis. J'ai pas l'impression que c'est un nom qui soit, est porté à une certaine postérité.
Peut-être qu'il est moins connu ou pas connu si on n'est pas du domaine.
Eh bien, heureusement que grâce à Biotine, on célèbre un petit peu la mémoire de John Wallis, qui est donc décédé le 28 octobre 1703. Carole, pas mal d'actualités scientifiques encore.
Oui, et je ne savais pas par quoi commencer et que choisir. Mais je me suis dit que là, il y a une petite coloration. On va parler du climat et de tous les impacts qu'il pourrait y avoir. Donc pareil, c'est une thématique régulière dans l'émission. Mais il y avait en effet plusieurs actualités là-dessus. Donc, j'ai décidé de commencer par les animaux. Et tu sais que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement pour, en fait, nous poser la question tous ensemble de ces animaux. animaux, eh bien, lesquels survivront au dérèglement climatique ? Oui, on commence un petit peu à se poser la question. C'est un article qui est paru dans Science et Avenir au début du mois d'octobre, hein, face au réchauffement climatique. Quels sont les animaux les plus à même de survivre ? Et oui, il y a des chercheurs qui y réfléchissent, qui se questionnent et qui regardent ce qu'il en est. Alors, ça a fait l'objet au départ d'une étude qui a été publiée dans la revue eLife en 2022 et qui là porte vraiment sur la survie des mammifères. Elle a été menée par 3 biologistes européens, danois, anglais et suédois. Et ces derniers, ils ont procédé à des analyses sur 157 espèces terrestres dans un laps de temps de 10 ans consécutifs. Cette étude, elle met en évidence que contrairement à ce que nous pourrions penser, les petits mammifères ne sont pas les plus favorisés dans la lutte pour la survie. Alors on l'a dit à une époque lointaine, je sais qu'on a peut-être cette image en tête, des petits mammifères qui, au final, quand les dinosaures ont disparu, ont eu du coup une niche écologique entre guillemets qui s'est ouverte et finalement c'est ce qui leur a permis, enfin ils ont survécu et après finalement se sont développés alors que c'est pas ce qu'on aurait pu imaginer à cette époque-là. Là, à l'inverse, ils seraient pas forcément les plus favorisés. On va rentrer dans le détail. Donc, ce que nous détaille justement Owen Jones, l'un des auteurs de l'étude, dans un communiqué de presse, c'est de dire que nous pouvons voir un vrai schéma se dessiner. Les animaux qui vivent longtemps et qui ont peu de petits sont moins vulnérables aux météos extrêmes, comme des longues sécheresses, des inondations, des tempêtes, etc., que ceux qui ont une courte durée de vie et beaucoup de petits. Donc ils en sont arrivés à cette conclusion. Le fait que les grands mammifères, tels que les éléphants, consacrent tout leur temps et leur énergie à élever un seul bébé, ainsi que leur tendance à attendre des conditions climatiques meilleures avant de se reproduire, consiste à étayer cette constatation. À l'opposé, les souris, qui peuvent avoir jusqu'à 80 souris par an, sont plus enclines à souffrir d'un manque de nourriture lié à de mauvaises conditions météo. Alors, selon ces chercheurs, hein, qui sont les grands gagnants justement de cette étude ? Plusieurs espèces, déjà parmi les éléphants d'Afrique, les tigres de Sibérie, les chimpanzés, les grandes chauves-souris ou encore les grizzlies. Donc c'est vrai qu'on peut trouver que c'est un résultat qui est quand même assez étonnant. Il précise quand même, attention, qu'il faut nuancer cette information avec le contexte actuel. Ce sont les espèces favorisées uniquement par le réchauffement climatique. Mais ce qu'il est important de rappeler, c'est que tous ces animaux, là que je viens de citer, sont en danger d'extinction à cause des autres activités humaines, telles que le braconnage, la destruction de leur habitat et la pollution. Donc, attention, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette influence humaine et juste un réchauffement climatique, ils seraient favorisés par rapport à d'autres espèces. Mais comme il y a aussi, bien sûr, l'influence de toutes ces activités humaines, ils auront peut-être disparu avant. Alors, ce que rajoute le biologiste, Owen Jones, nous attendons à ce que le changement climatique apporte son lot de météo extrême dans le futur. Les animaux vont devoir y faire face, comme ils l'ont toujours fait. Nos analyses aident à prédire comment ces derniers peuvent répondre au changement climatique grâce à leurs caractéristiques générales, c'est-à-dire physiologie, physionomie, histoire évolutive, même si nous n'avons que des données limitées sur certaines espèces. Donc là, on a parlé des mammifères, mais outre les mammifères, qui ne comptent finalement qu'environ 6500 espèces parmi les plus de 1,5 million d'espèces animales recensées, on va mettre la lumière sur 3 autres espèces qui ont des capacités d'adaptation impressionnantes et qui pourraient justement s'adapter au changement climatique à venir. Et donc là, attention, tanana, le podium gagnant de ces espèces qui tireraient leur épingle du jeu.
Alors, est-ce qu'on a misé sur le bon cheval ?
Oui, mais alors attention, parce que c'est vrai que ça va nous faire un monde un petit peu sympa. Dans un premier temps, alors on va commencer en plus les deux premières, c'est vraiment des animaux qu'on aime beaucoup. Donc d'abord, les méduses. Alors, mais ce qui paraît logique quand on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc les méduses, on sait que ce sont des créatures qui sont très anciennes puisqu'elles vivent depuis 600 millions d'années et elles flottent et sont portées, on va dire, par les courants marins. Elles font partie de la famille des cnidaires et sont à ce jour les animaux les plus venimeux au monde. Donc c'est pour ça qu'on les affectionne pas particulièrement, surtout quand on a envie de se baigner tranquillement. Elles n'ont pas de, là bien sûr je parle de l'espèce humaine, elles n'ont pas de système nerveux, pas de cerveau et pas de cœur. Pourtant, elles profitent de l'acidification des océans, qui est causée justement par le réchauffement des eaux et la pollution, pour étendre leur domaine. Elles arrivent même à manger plus qu'avant en abusant de la léthargie des crustacés, mal en point à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Donc là, pour elles,
c'est tout bénef.
Finalement, en effet, plutôt favorable pour vivre dans de bonnes conditions et continuer de se développer. Mais d'ailleurs, on le voit, s'il y a l'apparition de méduses à des périodes et à des endroits sur nos côtes où ce n'était pas le cas avant, et ça vient bien sûr nous déranger, c'est en effet dû donc à ces évolutions. Le deuxième animal, attention, pareil, mal aimé et mal connu des humains, c'est vrai, c'est un insecte. Je donne un indice.
Je sais pas.
Un insecte qu'on n'aime pas trop et qu'on n'aime pas trop voir dans sa cuisine. Alors non, c'est-à-dire que là...
Ah, les blattes.
Les blattes, les bien cafards. Joué. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est quand même, c'est ce qui est précisé, là, et je trouve ça intéressant dans cet article, un insecte hors du commun, ayant survécu à toutes les extinctions de masse et peuplant absolument tous les continents. Sa physionomie effilée et aérodynamique fait de cette espèce une championne incontestable de la survie. Elle peut sentir un déplacement de 0,2 nanomètre grâce à ses organes subgéniaux, donc c'est des organes sensoriels, situés sur les tibias, ce qui la rend presque impossible à surprendre. Et c'est pour ça qu'on a du mal à les tuer. Elle est également capable de vivre dans des milieux irradiés, de trouver des méthodes de contournement contre les insecticides, ce qui fait qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à nous débarrasser des blattes, hein, puisqu'elles tolèrent toutes les formes de produits toxiques, et de rester plusieurs semaines sans manger. Et pour terminer le tableau, elle aime s'épanouir dans les endroits chauds et humides. Il lui reste donc de beaux jours à vivre sur notre planète, même si celle-ci se réchauffe. Et donc ensuite, dernière espèce sur le podium, c'est le tardigrade. On le connaît sous le doux nom d'ourson d'eau. Donc là, moi, je pense que
je ne savais pas.
Ourson d'eau, c'est mieux. Alors les photos sont...
Le tardigrade, bien sûr, on a déjà parlé dans cette émission.
Il est minuscule, entre 1 mm et 0,1 mm, et pulvérise tous les autres animaux, petits ou grands, en termes de survie. Dans ses compétences, nous pouvons noter qu'il peut survivre au vide de l'espace, aux radiations cosmiques, au zéro absolu, donc c'est moins 273,15 degrés, aux flammes d'un volcan. Alors, je ne sais pas comment ils ont pu faire toutes ces constatations, mais peut-être en effet, à côté dans des zones volcaniques, les observer tout de même. Il peut très facilement vivre 30 ans sans manger. Et ça, c'est que quelques exemples parmi tant d'autres. Il est donc difficile de ne pas le prendre en référence des espèces pouvant s'adapter au réchauffement climatique.
Par contre, pour le tardigrade, je crois qu'il ne supporte pas les disques de Aya Nakamura, il me semble. Donc si tu y mets du Aya Nakamura, il meurt tout de suite.
Non, après, ça c'est un animal qui ne nous nuit pas, on peut lui permettre de rester. D'accord, ok. C'est important de le savoir.
Ça pouvait être vrai. Bon, eh bien, on n'aurait pas trop misé au départ. En fait, on n'aurait pas misé, mais avec du recul, effectivement, il y a une certaine évidence.
On comprend pourquoi, il y a une logique.
Et comme tu parles donc du réchauffement climatique, le Haut Conseil pour le climat en France publie des rapports et donc nous dit qu'il faut acter l'urgence, il faut engager les moyens. Oui, 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 bien évidemment, cause toujours, tu m'intéresses. Il n'empêche que il y a quand même une partie des grandes puissances de la planète qui s'est mise d'accord pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. On se rappelle bien sûr de ce qu'on appelait à l'époque la COP21. La France a déjà franchi le cap. La hausse des températures atteint plus 1,9 degré en France sur la décennie qu'on vient de passer. Et même plus 2,9 degrés au cours de l'année 2022, l'année dernière.
Ah, c'est fou.
Donc c'est un petit peu catastrophique. Le rapport du Haut Conseil pour le climat précise que cette année, exceptionnellement chaude dans le climat actuel, atteint le niveau de température moyen que la France connaîtra vers 2050-2060. C'est-à-dire que là, les hausses de température que l'on a, ça sera une moyenne en fait dans 30 ans. C'est effrayant.
Oui, on a du mal à se rendre compte.
Je pense qu'on a du mal à se rendre compte. Et il nous dit, si le réchauffement planétaire atteint seulement plus 2 degrés. Sauf qu'on sait qu'on en est très loin et qu'on va aller encore beaucoup plus haut. Ce réchauffement en France a déclenché une cascade de conséquences l'année dernière. Une hausse des décès pendant les canicules de l'été. On a estimé, alors j'aime bien un chiffre, 2816 décès pendant les canicules. On n'en sait rien, c'est beaucoup plus aléatoire, mais on sait bien évidemment qu'il y a une hausse de la mortalité pendant ces périodes-là. Moins 20% de production hydroélectrique, bien sûr, les centrales hydroélectriques ne peuvent pas nécessairement fonctionner de façon optimale, jusqu'à moins 20% de rendement pour certaines filières agricoles, et 5 km3 de volume perdu pour l'ensemble des glaciers alpins, ce qui est à peu près l'équivalent de 3,5 mètres de glace. C'est effrayant tout ça, uniquement en une seule année. Pour l'heure, la France n'est pas prête à faire face aux effets du changement climatique. C'est ce que répète le Haut Conseil pour le climat dans chacun de ses derniers rapports. Mais on le lit, mais on s'en fout. Les événements extrêmes et leurs conséquences sur notre société ne sont pas assez anticipés. Alors, le problème doit être traité de manière globale. L'ampleur du réchauffement planétaire et en France dépend du cumul des émissions de dioxyde de carbone. En cas de forte baisse de ces émissions d'un point de vue mondial, l'effet serait discernable en une vingtaine d'années par un ralentissement du réchauffement planétaire, nous dit-on. Donc d'une manière générale, les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial ne sont pas sur une trajectoire compatible avec l'atteinte des objectifs des accords de Paris. Les politiques publiques actuelles de l'ensemble des pays du monde conduirait à un réchauffement planétaire estimé jusqu'à plus 3,5 degrés d'ici la fin du siècle. Plus 3,5 degrés, on est loin du plus 1,5 degrés qui avait été signé et acté avec grand renfort, bien évidemment, ce que tout le monde a dit, oui, on le fera. Alors, sur le front des bonnes nouvelles, il y a au moins 18 pays, dont la France, qui ont vu leur émission diminuer depuis 10 ans ou plus. Mais le reste du monde ne suit pas. Les émissions de gaz à effet de serre mondiales continuent d'augmenter, même si leur rythme est moins élevé. En France, l'empreinte carbone est en fait 1,5 fois plus élevée que les émissions produites sur le territoire français. Et le fléau environnemental, c'est toujours le même. En première ligne, c'est bien sûr le secteur des transports. Dans ce secteur, la voiture reste de loin le principal émetteur de gaz à effet de serre, suivi des poids lourds avec une bonne marge. Malgré les politiques environnementales et le développement de mobilités plus durables, les émissions du secteur du transport ont augmenté l'année dernière. Les baisses des émissions observées entre 2019 et 2021, liées notamment à la hausse du prix du carburant et liées bien sûr, on s'en souvient, aux différentes phases de fonctionnement, de confinement, pardon, je vais y arriver. On avait assisté à une baisse, mais ça n'a pas duré. Évidemment, ce qu'on nous avait dit, après le monde d'après, mais en fait le monde d'après, c'est le monde d'avant. Pour atteindre les nouveaux objectifs 2030, les émissions du secteur nécessitent une baisse entre 3 et 5 fois plus vite par rapport à cette période 2019-2022. C'est-à-dire qu'on en est très loin. Les aides et les incitations actuelles n'orientent pas suffisamment la production vers des véhicules petits, plus légers, plus abordables, ce qui aggrave les inégalités. Dans les autres secteurs, les nouvelles sont plus positives, mais force est de constater que les baisses d'émissions de gaz à effet de serre ne sont pas liées aux mesures du gouvernement, mais à d'autres événements. Par exemple, au niveau de l'agriculture, ça a diminué. Mais il ne faut pas se leurrer, hein. Le budget carbone est pour l'instant respecté, mais cette évolution provient davantage des difficultés socio-économiques du domaine de l'agriculture que d'une stratégie de décarbonation, bien sûr. Hein. Baisse du cheptel bovin, hausse du prix des engrais, donc évidemment, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas d'une façon glorieuse. Les émissions de l'industrie, ça a diminué également l'année dernière. Mais ça, c'est bien sûr la baisse de la consommation d'énergie. Pourquoi ? Parce que ça coûte de plus en plus cher. Donc on est sur des mesures de sobriété qui sont prises d'une façon un petit peu obligatoire parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et également au niveau des bâtiments, ça a diminué également. Mais c'est lié au fait que l'hiver dernier, l'hiver 2022, était doux. Donc effectivement, on n'avait pas nécessairement une consommation d'électricité, un chauffage vraiment important dans les bâtiments. Comme c'était un hiver doux, tu chauffais modérément. Donc bien sûr, tu peux dire qu'il y a une baisse au final, mais enfin, c'est pas non plus là parce qu'on a mis en place des actions ou qu'on a peut-être engager une phase de réhabilitation des bâtiments, essayer d'améliorer les passoires thermiques, toutes ces choses-là. Non.
Et on avait dit aussi aux gens d'utiliser le moins possible.
On avait dit aux gens d'utiliser le moins possible, mais les gens l'ont fait parce que, comme tu l'as dit, ça coûte cher.
Oui,
C'est tout. Enfin,
ils ne peuvent plus se le permettre, donc oui, ils le font. Oui,
c'est aussi simple que ça. Hein. On n'a pas mis des cols roulés parce que Bruno Le Maire a mis un col roulé. On a mis un col roulé parce que ça coûtait trop cher. Enfin, à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Oui. Donc, ce que dit cet article, et j'en ai fini, c'est que... Que dit le Haut Conseil pour le climat en France, c'est que la France n'est pas prête à faire face au réchauffement climatique. C'est catastrophique. On va droit dans le mur. Mm-hmm. On le sait maintenant. On ne peut pas dire qu'on ne le savait pas. On le sait que les dispositions qui sont prises ne sont pas efficaces et que quand il y a des bonnes nouvelles, entre guillemets, elles sont prises sous la contrainte ou elles sont prises essentiellement sur une question purement économique. C'est un peu dommage, en fait, d'en arriver à ce point-là. Et qu'on a aussi, on entend un petit peu au niveau de certains politiques, le fait de dire « Ah mais oui, mais la France, oui, elle veut essayer de faire des choses, mais enfin, le reste du monde ne fait pas. » Et ça, c'est un vrai discours parce que, alors je ne sais plus le chiffre, c'était 1%, la France était responsable de 1% des émissions de gaz à effet de serre, je crois, au niveau mondial. Mais oui, mais il faut avoir, en fait, à un moment, il va falloir une volonté internationale pour agir. Et en fait, mais à aucun moment on en parle. À aucun moment on a... C'est pas quand même faute de voir tous ces chefs d'État se réunir je ne sais où. Mais il n'y a aucune action concrète qui est mise en place. C'est totalement... Enfin, c'est un scandale dans le sens où... on retiendra quoi de leur action ? Que va retenir l'histoire plus tard de l'action de ces chefs d'État dans les décennies depuis le début des années 2000 où cette prise de conscience commençait à naître à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on va retenir ? Rien ?
C'est une très bonne question. Moi, j'ai l'impression que c'est en effet les nouvelles générations qui, là, se saisissent du problème, qui, elles, savent qu'elles vont vivre avec. Et donc, peut-être quand il y aura des dirigeants et des décideurs qui seront issus de cette génération-là, ça changera. Enfin, en tout cas, c'est l'espoir qu'on peut avoir, parce qu'on a l'impression qu'en effet, toute l'ancienne génération est au courant. Hein. C'est mieux que personne quelles sont les données, mais n'agit pas.
Maintenant, on sait. Enfin, au bout d'un moment, dans cette émission, je crois qu'on en parle toutes les semaines,
Oui.
Peut-être pas, mais presque.
Presque.
On sait, maintenant, on sait très bien. Quand on a donc dans cet article où on nous dit que ce qu'on a connu en 2022 en termes de chaleur, de phase de chaleur, sera la moyenne dans 30 ans, ça devrait marquer les esprits. Enfin, on ne peut pas se permettre. On n'est plus du tout dans une échelle de temps long. On est dans une échelle de temps de vie humaine. Donc, on va le connaître, nous, Carole.
Ben oui.
Ah, bon, on ne sera pas très frais.
Non, on sera plus dans un très bon état, mais on va le connaître.
Donc, imaginons la nouvelle génération qui arrive. C'est assez inquiétant. Et donc, du coup, voilà, et ce Haut Conseil pour le climat dit des choses très justes, mais là, malheureusement, la science est là pour informer, mais je n'ai pas trop l'impression que la science va nous aider. Là, c'est une prise de décision qu'il faut prendre. Les technologies, elles, pour l'instant, elles n'est pas nécessairement, à mon sens, elle va pas dans le bon sens parce que ce sont des nouvelles technologies qui restent encore assez énergivores.
En tout cas, ça n'ira pas assez. Enfin, on peut présupposer que ça n'ira pas assez vite. Il y a des gens qui croient encore. Moi, j'entendais l'autre jour, justement, dans une émission de débat où je trouvais que tout le monde était très dépassé, que la technologie allait tout résoudre. Et justement, d'autres intervenants avec lesquels j'étais plus en accord disaient qu'en fait, c'était des discours hyper réactionnaires, hyper vieux et que c'était pas du tout le cas. C'est pas du tout ce qu'on observait à l'heure actuelle.
C'est pas ce qu'on observe. Si on regarde, par exemple, est-ce que l'avenir de l'automobile, on dit que c'est l'automobile électrique. Pas d'émissions de gaz à effet de serre de la voiture électrique. On ne prend pas en considération la production, on ne compte pas...
Maintenant, on le sait, on sait que c'est aussi très polluant et que justement, ça ne peut pas être la seule solution.
On sait que ce n'est pas la seule solution. Et puis, c'est pareil, comment on produit l'électricité ?
Oui, non, mais c'est certain.
Alors, il y a plein de choses, il y a plein de débats qui existent depuis plusieurs années. Et là encore, ces deux articles qu'on vient d'évoquer, Carole, nous alertent. Et je pense qu'en fait, je vais essayer de me réincarner en méduse. Je pense que c'est
le
mieux.
En tout cas, tu as des grandes chances de survivre, du coup, grâce à ça. C'est peut-être le plus simple.
Non, mais finalement, la méduse, tu vois...
Je crois que je vais choisir le tardigrade.
Elle ne pense pas, la méduse. Et elle est toujours là, dans des eaux chaudes, blou, blou, blou. C'est assez sympa. Moi, je vais faire ça. Je vais me réincarner en Méduse.
Très bien.
Et qui même me suivent. On écoute, j'allais dire Bardella, non, c'est Bartzella, pardon, sur l'antenne
lapsus,
de Grasse. Cette émission devient vraiment trop politique. On écoute Bardella sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après avec Carole pour continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. À tout de suite.
Je veux être obligatoire au bac pour que les gens parlent de moi. Comment était-il Bartzella et qu'ils analysent méthodiquement ma vie, mon œuvre, mon entêtement et qu'ils m'apprennent par cœur bêtement et qu'ils me comprennent. Je veux qu'ils se plaignent des heures durant, car il est vrai que c'est chiant d'apprendre ma vie. Je veux être obligatoire au bac, un sujet de 4 heures à l'écrit, un coefficient indéfini, les notes. Des grands hommes qui sont obligatoires au bac, je prouverai au monde que je suis quelqu'un. Tu vois, maman, je m'en sors bien, preuve que l'entêtement. Maman, j'ai gagné. Et les sales moments sont passés. Et le sale mot, maman, a germé. Verrai-je mon rêve, maman, s'achever. Sujet au bas à lauréat, parce que je le vaux bien, un sujet bâclé, bien trop de fois, on n'y comprenait rien, rien.
Dynamiser.
Vas-y, c'est à toi, Carole.
Graphite 94.9 FM. On est sans filet aujourd'hui, là, c'est une catastrophe.
Mais je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Non, c'est là, avec ce côté un peu balmusette,
oui,
qui nous a motivés.
Exactement.
Obligation au bac, Bartzella sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous informer de l'actualité scientifique. On a été un petit peu dans le catastrophisme avec nos deux articles que l'on vient d'évoquer. J'ai un peu peu l'impression qu'on continue un petit peu.
Oui, et on va continuer. Parce qu'on a été redynamisés par cette musique et je pense que c'est important. Non, mais autant aller jusqu'au bout. Moi, je vais parler du trou de la couche d'ozone. Comme ça, après, on peut aller se coucher.
Le trou de la
couche d'ozone. Voilà, 13h, on peut aller au lit. Donc, à la fin de l'émission.
Le coup de la trouche.
Oui, alors laisse-moi parce que
là... Ça date des années 80 quand même.
C'est ça.
Et on en parle encore.
Oui, bah alors, je sais qu'à un moment, et je sais que j'étais là, je t'accompagnais sur ces émissions-là, on l'avait réévoqué. Je sais pas, j'aime bien en parler, ça doit être un peu une madeleine, un marronnier, chez moi. Mais parce que là, c'est un article qui a été relayé par Science et Avenir et qui date de début octobre. Qui nous parle justement du trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Alors, il y a une période où en effet, on en parlait beaucoup. Moi, je gardais en tête que justement, ça s'était amélioré et qu'une amélioration était prévue. Mais bon, là, en 2023, il atteint une taille record au-dessus de l'Antarctique. On va essayer d'y voir plus clair. Donc déjà, ce qu'il faut rappeler pour avoir un petit peu des échelles de taille, c'est que le trou de la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique, il a une superficie qui est équivalente à 3 fois la taille du Brésil, à peu près. Donc plus de... Alors oui, donc sa taille, ce serait plus de 26 millions de kilomètres carrés. Ça a été mesuré par le satellite Sentinel-5P de l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA. Et ça, c'est une mesure qui date du mois de septembre. C'est l'un des plus importants connus depuis la découverte de cette zone de déplétion de l'ozone stratosphérique dans les années 70. Donc en effet, tu vois, vieux sujet. Mais en fait, chaque année, le trou dans la couche d'ozone s'ouvre durant le printemps et l'été austral à une quinzaine de kilomètres au-dessus de l'Antarctique et il atteint sa superficie maximale entre les mois de septembre et d'octobre avant de progressivement se combler vers le mois de décembre. Cette année, il a débuté particulièrement tôt et s'est développé rapidement depuis la mi-août. Ça, c'est ce que nous confirme, je ne sais pas, dans le service de surveillance de l'atmosphère du programme Copernicus de l'ESA. Donc, il est surveillé. Et les chercheurs, du coup, regardent ce qu'il en est. Mais apparemment, en effet, là, il s'est ouvert plus tôt. L'une des explications possibles à l'ampleur de cette déplétion pourrait être la violente éruption du volcan Unga Tonga Unga à Apai le 15 janvier 2022. Cette éruption aurait injecté une grande quantité de vapeur d'eau dans la stratosphère qui n'a atteint les régions polaires au sud qu'à la fin 2022. La vapeur d'eau aurait pu conduire à la formation accrue de nuages stratosphériques polaires où les chlorofluorocarbones, donc les CFC, les fameux, peuvent réagir et accélérer l'appauvrissement de la couche d'ozone. La présence de vapeur d'eau peut également contribuer au refroidissement de la stratosphère antarctique, aboutissant à un vortex polaire plus robuste. Ça, c'est ce que nous explique la scientifique donc, du coup, du fameux programme de surveillance qui s'appelle Ange Inès. Alors, la découverte du trou de la couche d'ozone a suscité une vive inquiétude de la part des scientifiques et une réaction relativement rapide des autorités internationales. La couche d'ozone stratosphérique est en effet un élément indispensable à la vie sur Terre. C'est aussi pour ça qu'à l'époque, j'allais dire dans les années 70, ça avait aussi fait paniquer. Elle a un rôle de bouclier qui bloque les dangereux rayonnements ultraviolets émis par le soleil. Ces UV peuvent provoquer des cancers, altérer le système immunitaire et même endommager l'ADN des êtres vivants, y compris celui des végétaux. Ce sont principalement les CFC et le brome, largement employés dans les systèmes réfrigérants, qui sont responsables de la destruction des molécules d'ozone par le jeu de réactions catalytiques. Le protocole de Montréal, adopté en 1987, il avait permis de les retirer progressivement des industries.
Oui, on s'en souvient, parce qu'on a connu cette période, bien sûr.
Mais ça a été quelque chose, forcément un processus engagé qui est long. Le brome n'a été, lui, interdit qu'en 1992. Et les CFC comme le brome peuvent persister dans l'atmosphère, CFC et brome, peuvent persister dans l'atmosphère pendant plusieurs années. Si bien que jusqu'en 2000, leurs concentrations ont augmenté avant de se stabiliser, puis diminuer. Ainsi, les experts estiment que le trou au-dessus de l'Antarctique devrait se refermer entre 2050 et 2060. Donc moi, ce que je comprends, c'est que, évidemment, que les actions qui ont été prises à l'époque où on ne parlait que de ça, ça avait déjà eu une influence. Mais en fait, ce trou, il se réouvre du coup à certaines périodes là, donc qui visiblement des fois s'élargissent quand il y a certains phénomènes climatiques qui l'accentuent, etc. Et qu'il y a aussi une persistance malgré les décisions qui ont été prises de certaines molécules. Donc on peut espérer s'en sortir entre guillemets de cette histoire à partir de 2050.
Oui, ce qui ferait à peu près 70 ans après avoir cette prise de conscience internationale. Mais ouais, quelque part, ça peut être un bon exemple, en fait.
Oui. Bah, là, c'est un exemple où j'allais dire, si ça se passe comme prévu, on ne s'en sortirait pas trop mal et plutôt à court terme, comparé à d'autres phénomènes où on est sur des impacts et des durées qui sont énormes, enfin, qui sont beaucoup plus longues, voire irrémédiables.
Bien sûr.
Voilà, moi j'ai fini pour le...
Non, mais je veux dire, finalement, c'est plutôt positif, en fait.
Finalement, c'est plutôt positif.
Bon, tant mieux. On est plutôt dans une perspective, là, d'optimisme débordant. Et je t'emmène aux urgences. Et
merci.
On va partir, on va pas aller tous les deux, on va être accompagné bien sûr de Chat GPT,
bien
ce
sûr.
Chatbot d'intelligence artificielle, parce qu'il a réalisé des diagnostics au moins aussi bien que des médecins et les a dans certains cas surpassés. C'est ce qu'ont découvert des chercheurs néerlandais. D'après eux, l'intelligence artificielle pourrait, je cite, révolutionner le domaine médical. Alors, les auteurs de cette étude parue il y a quelques jours ont toutefois souligné que les jours des médecins urgentistes n'étaient pas encore comptés, hein, le chatbot étant potentiellement capable d'accélérer le diagnostic, mais pas de remplacer le jugement et l'expérience d'un humain. Ouf, on respire. Il y a 30 cas qui ont été traités dans un service d'urgence aux Pays-Bas en 2022, qui ont été examinés en alimentant ChatGPT en fonction des antécédents des patients, des tests en laboratoire et des observations des médecins. Et donc, ils ont demandé à ChatGPT de proposer 5 diagnostics possibles. Et dans 87% des cas, le bon diagnostic se trouvait dans la liste des praticiens, contre 97% pour la version de ChatGPT, la version 3.5. Donc c'est une version un peu plus récente. Le chatbot était capable de réaliser des diagnostics médicaux un peu comme l'aurait fait un médecin humain. C'est ce qu'a expliqué Heide Tenberg, qui est du service d'urgence de l'hôpital dans le sud des Pays-Bas. Je vais y arriver, pardon. Qui c'est qui fait ce bruit-là ?
C'est moi, j'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi.
Vous savez ce que c'était ?
Pardon, excusez-moi, c'est le bruit de mon micro, mais tout va bien.
Ils ont du coup publié cette étude dans la revue spécialisée des Annales de médecine d'urgence et ces deux chercheurs ont souligné que cette étude ne concluait pas que des ordinateurs pourraient un jour diriger les urgences, mais que l'intelligence artificielle, et c'est ça qui est important, pouvait jouer un rôle vital en aidant les médecins sous pression.
Oui, alors après c'est pareil, c'est le bon usage, hein, puisqu'on en parlait dans la dernière émission de l'influence du coup de l'IA sur la prise de décision. Donc oui, mais attention.
L'un des chercheurs a expliqué donc que ChatGPT peut aider à réaliser un diagnostic et peut-être proposer des idées auxquelles le médecin n'avait pas pensé. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP. Alors, de tels outils ne sont pas conçus comme des dispositifs médicaux. Et puis ils partagent bien évidemment aussi les inquiétudes en ce qui concerne la confidentialité des données médicales, des données un peu sensibles, qui seraient aussi données à la merci d'un chatbot comme ChatGPT. Et comme dans d'autres domaines aussi, ChatGPT a rencontré certaines limites. Hein. Son raisonnement était, je cite, parfois médicalement invraisemblable ou incohérent, ce qui peut conduire à des informations erronées ou à un diagnostic incorrect avec des implications importantes. Hein, c'est ce qu'explique l'étude. Les scientifiques admettent également certaines lacunes dans leurs recherches, comme la petite taille de l'échantillon. De plus, seuls des cas relativement simples ont été examinés avec des patients présentant une seule plainte principale. L'efficacité du chatbot dans des cas complexes n'est pas claire. Parfois, ChatGPT ne fournissait pas le bon diagnostic dans les 5 possibilités. Par exemple, dans le cas d'un anévrisme aortique abdominal, c'est une complication potentiellement mortelle avec donc l'aorte qui enfle. Mais donc là, il n'était pas bon. Mais consolation pour ChatGPT, dans ce cas, le médecin s'est également trompé.
Ah ben, tout va bien. C'est de toute façon un cas où...
Du coup, personne l'a vu, en fait. Le rapport signale en outre des gaffes médicales commises par le chatbot, par exemple, en diagnostiquant une anémie chez un patient présentant un taux d'hémoglobine normal. Les résultats de l'étude seront présentés dans quelques jours au Congrès européen de médecine d'urgence à Barcelone. Tiens, Barcelone.
C'est hyper intéressant en tout cas. Non, mais ça va devenir une aide incontournable. Il faut bien s'en. En fait, voilà, faut bien s'en.
Il faut doser, il faut prendre du recul. Mais voilà, c'est une aide. En fait, il faut le voir comme une aide, mais pas comme un remplaçant.
C'est ça.
Tu veux qu'on écoute un titre comme oh. Ça te permet de.
Alors,
je
moi
vois
je...
que tu es en plein ménage.
Non, pas du tout. Je peux tout faire. Enchaîner, mais je pense qu'on peut écouter en effet un titre.
On peut écouter.
Parce qu'après, le sujet que j'ai envie d'aborder, ça va prendre un petit peu de temps.
Eh bien, on écoute Schrag sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
C'était génial ça, ça nous a bien réveillés. C'était Schrag avec Foucauda sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique, tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion le mardi matin à 10h. On feuillette comme ça ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique parce qu'il y a pas mal de choses. On a commencé d'une façon un petit peu anxiogène, on va dire. Mais plus ça va, plus ça devient plaisant.
Exactement, au fur et à mesure de l'émission.
Que là, quoique, tu vas peut-être replomber un peu l'ambiance. Ça permet en fait d'avoir des précisions sur
exactement
c'est ça qu'on faut voir.
des nouvelles au niveau de la santé. Et moi, ça va être en lien avec justement ce qu'on apprend, les découvertes qu'on a maintenant par rapport au Covid-19. Hein, on y voit plus clair et aux conséquences. Donc, c'est un article qui a été relayé dans Science et Avenir début octobre et qui nous dit qu'en fait, une infection au Covid-19, elle augmente le risque de complications cardiaques, comme une crise cardiaque jusqu'à un an après la maladie. Une équipe de chercheurs s'est penchée sur le sujet et vient enfin de comprendre pourquoi. Donc encore une fois, le côté positif, je vais le tourner comme ça, c'est que si on comprend mieux ça, et bien évidemment, on pourra prévenir et empêcher le fait que ça puisse arriver sur des patients à risque. Donc, après avoir contracté le Covid-19, le risque de maladie cardiovasculaire ou d'AVC est plus élevé jusqu'à un an après l'infection. Donc, c'est ce que nous dit cette étude. Jusque-là, ce phénomène bien constaté sur les patients n'avait pas encore été totalement compris. Des études avaient déjà montré que le virus peut infecter les tissus des poumons ou du cerveau, mais très peu de travaux portaient sur les artères coronaires. Cette fois, une large étude vient de mettre le doigt sur les raisons de ce risque accru. Le SARS-CoV-2, parce que c'est comme ça hein, de son vrai nom, donc le virus responsable du Covid-19, est bien capable d'infecter les coronaires et d'y augmenter l'inflammation. Ce sont donc des travaux qui ont été publiés dans la revue Nature Cardiovascular Research et qui montrent que chez les personnes âgées présentant de l'athérosclérose, c'est-à-dire des plaques composées de lipides aussi appelés athéromes, dans les artères, le virus arrive à s'infiltrer jusque dans les artères coronaires et la plaque d'athérome. Et ce, quel que soit le degré de formation de la plaque. Après analyse de tissus prélevés chez des personnes décédées, des travaux menés in vitro en laboratoire ont montré que le virus est bien capable de s'introduire dans des macrophages, donc c'est les cellules de l'immunité, et des cellules spumeuses, donc ça c'est les cellules qui entraînent l'athérosclérose de ces tissus. Lors d'une infection virale, comme celle du Covid-19, le système immunitaire envoie des macrophages pour éliminer le virus de l'organisme. Ce sont ces mêmes macrophages qui contribuent à éliminer le cholestérol dans les artères. Quand les macrophages sont surchargés de cholestérol, ils se transforment en cellules spumeuses qui forment ensuite la plaque graisseuse. Donc, cette recherche, elle montre que lorsque le virus infecte les cellules artérielles, il a tendance à infecter les macrophages plus rapidement que les autres cellules. Ces derniers vont exacerber l'inflammation déjà existante de la plaque et libérer des cytokines, des cellules du système immunitaire qui entraînent des événements cardiovasculaires. Elles contribuent entre autres à rigidifier les artères, à former de la plaque. En parallèle, les cellules spumeuses qui contiennent le cholestérol sont incapables d'éliminer l'infection. Elles pourraient donc jouer un rôle de réservoir de Covid-19 dans la plaque. Plus il y en a et plus les symptômes sont persistants et sévères. Donc avec l'inflammation de la plaque, l'étude conclut qu'il existe un lien mécanique avec la survenue d'infarctus du myocarde et d'AVC. Accumulées et enflammées, les plaques peuvent se rompre, ce qui entraîne la formation d'un caillot, ce qu'on appelle le thrombus, bloque la circulation du sang et provoque une ischémie. L'apport du sang est donc très limité ou bloqué dans le cœur ou le cerveau, ce qui peut être mortel. Ce mécanisme a lieu dans la carotide en cas d'AVC et dans les coronaires en cas d'infarctus. Dans d'autres cas, l'artère peut se fissurer. Des plaquettes sanguines s'agrègent alors aux lipides de la plaque et forment un caillot qui va ralentir ou bloquer la circulation du sang. Cette étude ne permet toutefois pas d'expliquer pourquoi de jeunes personnes en bonne santé ont pu décéder du Covid-19 sans que l'on ne comprenne pourquoi. On se souvient qu'il y avait eu des cas justement que ça avait posé question. La cohorte de patients examinés par l'équipe des National Institutes of Health, NIH, portait uniquement sur des patients avec de l'athérosclérose préexistante à leur infection au Covid. Impossible également de conclure que les souches du virus qui circulent aujourd'hui se comportent également de la même façon dans les vaisseaux sanguins. L'étude porte en effet sur des cas survenus au début de la pandémie, entre mai 2020 et mai 2021, à un moment où d'autres souches virales circulaient dans le monde. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on comprend a posteriori, mais on savait ça, qu'il y aurait des décalages hein, de toute façon entre ce qu'on observait et la compréhension du coup des différents mécanismes impliqués. Donc là, évidemment, on finit sur les limites de cette étude et sur le fait qu'il faudra aller plus loin pour comprendre, par exemple, dans le cas des personnes jeunes. Donc déjà, on a compris sur une partie des cas ce qui se passait vraiment. En effet, savoir si peut-être les formes actuelles, les sous-variants, etc., qui circulent actuellement, est-ce qu'ils peuvent provoquer aussi ça ou en fait, est-ce que finalement, on le reverra plus parce que maintenant, c'est d'autres types et qui jouent plutôt sur telle ou telle partie du corps, tel organe. Mais il y aura toujours un petit retard, mais néanmoins, ça nous aidera quand même à identifier tout ce qui peut se produire à la suite du Covid Alors qu'au départ, on était assez démunis, et peut-être aussi, moi j'extrapole, je sais qu'on travaille sur justement la compréhension des personnes qu'on identifie comme ayant des Covid longs, avec pour l'instant des tableaux quand même de symptômes hyper variés, des problématiques sur les, enfin, pour lesquelles on n'a pas vraiment encore de réponse, et je pense que toutes ces études-là, même si forcément ça prend du temps, elles finiront par apporter des réponses. En tout cas, là, c'en est une première.
Bien sûr, on a toujours dit que de toute façon, on aura pas mal de réponses à beaucoup de questions, mais il faut du temps. La science doit prendre son temps. Enfin, je veux dire, c'est pas, on n'est pas sur quelque
chose d'instantané. C'est pas
immédiat. Mais oui, ouais, c'est pas immédiat. C'est le principe de la science, c'est le principe de la recherche scientifique. Il faut un temps qui est trop long pour certains, mais qui est le temps nécessaire pour avoir des bonnes réponses. Donc là, effectivement, c'est un article très intéressant parce que ça apporte une information parmi tant d'autres qu'on va avoir. Je pense que dans cette émission, je ne sais pas combien de temps elle va durer encore, mais je pense que pendant un certain nombre d'années, nous aurons des communiqués sur des travaux de recherche liés au Covid, parce que ça a tellement été d'ampleur internationale que là, les résultats vont être intéressants, parce que des fois, on parle de découvertes qui sont faites sur une centaine de personnes. Là, on est sur des millions et des millions de personnes. Donc, effectivement, ça va être intéressant d'avoir pas mal de choses d'un point de vue médical. Donc là, c'est intéressant de comprendre certains fonctionnements. Moi, je suis impatient d'avoir des retours d'un point de vue psychologique et psychique.
Il y a aussi tout ce côté-là, tout ce volet-là, ça, oui, de recherche.
Je trouve pas, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses qui apparaissent. Je pense que c'est encore beaucoup plus long pour analyser et pour avoir un retour. Mais d'un point de vue, je ne sais pas, pédagogique, au niveau des jeunes, comment ça s'est passé. Enfin, on sait où on dit des choses, mais j'aimerais bien que ça soit corroboré par des études scientifiques. C'est ça, en fait. Et donc, pour l'instant, je reste encore très, très prudent sur ce que l'on peut dire sur oui, le Covid, ça a fait ceci sur les jeunes. Peut-être. Je voudrais savoir.
Oui, c'est-à-dire, voilà, de détailler un peu ça.
Ouais, ouais, et on le saura bientôt. Mais donc ça, c'est un article intéressant parce que on commence un petit peu à parler du Covid dans cette émission. Donc il y a quelques articles qui commencent à venir, mais sur des choses, j'allais dire, qui nécessitaient pas beaucoup de temps parce que quelque part on savait ce qu'on voulait trouver. Je sais pas comment expliquer, mais on savait quelle piste, voilà. Donc c'est un petit peu plus facile de suivre une démarche expérimentale si on sait déjà un petit peu les hypothèses et qu'on a arrivé à bien définir les bonnes hypothèses. Mais pour d'autres sujets, je pense qu'on a beaucoup d'attentes à avoir parce que on sait pas trop ce que l'on cherche, on ne sait pas trop comment. Et il y a certaines études en sciences sociales qui nécessitent du temps pour qu'elles soient
plusieurs années
pour qu'elles soient efficaces, pour que les résultats aient du sens et soient efficaces. Donc on en reparlera bien sûr dans cette émission assez régulièrement. Autre chose, je vais parler de l'huile la plus consommée dans le monde, c'est bien sûr l'huile de palme. Et c'est un véritable désastre écologique parce que la fabrication de l'huile de palme entraîne notamment la déforestation pour pouvoir la produire. Et l'huile de palme constitue un sujet de recherche pour les scientifiques qui essayent de trouver une alternative qui soit éthiquement plus acceptable. C'est assez intéressant d'avoir un article qui parle d'un peu de science et d'éthique. Mais là, c'est le but justement de ces recherches pour essayer de trouver une alternative. Et en Écosse, on y serait apparemment enfin parvenu. Alors l'huile de palme, c'est quoi? On la retrouve partout, hein, dans la pizza, la pâte à tartiner, dans des déodorants, dans du dentifrice. En fait, elle a une texture lisse, elle a une odeur neutre et elle a la capacité d'être un conservateur naturel. C'est un ingrédient qui est surtout fabriqué en Malaisie et en Indonésie. Dans ces deux pays, c'est 85% de la production mondiale et ça intéresse bien sûr depuis longtemps les industriels parce que ça coûte pas cher à fabriquer, parce que ça permet de présenter un tarif économique sur le produit final. Mais il y a un mais, et ce bémol a un rapport avec l'environnement et le désastre écologique qu'engendre la production de l'huile de palme. Il représente 40% de toutes les huiles végétales produites dans le monde, mais sa production engendre une dramatique problématique de déforestation. Entre 2011 et 2013, donc il y a déjà une dizaine d'années, les planteurs de palmiers à huile auraient brûlé 6 millions d'hectares de forêt, c'est ce que rapporte la revue National Geographic. Cela représente l'équivalent de la surface de l'Irlande. juste en 2 ans. On s'en rend même pas compte, je pense. Et pour cultiver ces espèces végétales, on a en effet besoin de défricher le terrain forestier pour lui attribuer une nouvelle fonction afin de mettre en place une nouvelle culture. Alors non seulement ces fumées de feu dense brouillent la vue des pilotes d'avions qui souhaitent se poser à Bornéo, nous dit-on, mais qui plus est, cette déforestation détruit l'habitat ainsi que la ressource alimentaire d'animaux comme les orang-outans, bien sûr. Outre la pollution des sols, eh bien, la culture du palmier à huile réduit de 90% au minimum le taux de biodiversité par rapport à une forêt tropicale primaire. Et elle grignote par exemple l'espace de vie des éléphants, des rhinocéros, des tigres. Les conséquences concernent aussi l'augmentation des gaz à effet de serre. La déforestation serait responsable jusqu'à 20% de l'ensemble des émissions humaines de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment très très impactant. Voilà donc autant de bonnes raisons pour les chercheurs écossais de l'université Queen Margaret d'Édimbourg de plancher sur une alternative plus écologique mais aussi plus saine pour la santé. Et donc d'après un communiqué, ils y seraient parvenus sans même utiliser ni arômes ni conservateurs chimiques et encore moins de noix de coco que l'on envisage un petit peu souvent comme une alternative aux huiles plus usuelles. La recette est obtenue à partir de déchets générés par l'industrie du lin. Les scientifiques y ont ajouté aussi de l'huile de colza ainsi que des fibres naturelles et le résultat ressemble à une sorte de mayonnaise. On l'a appelé On l'appelle palm alt, diminutif anglo-saxon pour désigner une alternative à l'huile de palme. Alors, c'est pas la première fois que des scientifiques se penchent sur la question de l'huile de palme pour lui trouver un pendant qui soit plus acceptable d'un point de vue éthique. En début d'année, il y avait une start-up qui s'appelait C16 Bioscience qui avait dévoilé un processus de fermentation de déchets alimentaires pour en extraire un liquide qui serait capable de remplacer l'huile de palme. L'entreprise new-yorkaise avait baptisé sa trouvaille de Palmless, misant donc sur le concept d'huile de palme sans huile de palme, c'est tout l'intérêt. Tout reposait en fait sur le principe d'une huile de synthèse obtenue grâce à l'action d'une levure qui offrait l'opportunité de lancer un processus de fermentation. Alors l'affaire, elle est vraiment sérieuse parce qu'on apprend que Bill Gates avait investi dans le projet pas moins de 20 millions de dollars.
Ah oui, c'est énorme.
Tout l'intérêt de l'huile de palme, c'est simple. Je pense à notamment la fête de la science et à l'Université de technologie de Compiègne. Il y a quelques années, il y avait un stand où on abordait ce sujet-là de l'huile de palme. Et je ne sais pas si ça existe encore maintenant, mais en période de Noël, on avait souvent ces espèces de bûches pâtissières, aux pralinés, au chocolat. Mais tu sais, qui étaient présentées sur des présentoirs, qui n'étaient pas dans les frigos. Qui se conserve à température ambiante parce que la température ambiante permettait à l'huile d'être solide, donc le gâteau ça ne coulait pas et c'est donc une conservation géniale pour les industriels. Et justement, l'Université de technologie de Compiègne travaille encore sur le lin. Oui. L'un des débouchés du lin était la production de biocarburants. Et la question était, mais qu'est-ce qu'on fait des déchets ? L'une des autres pistes était, et ça avait été présenté également à l'UTC, de fabriquer des matériaux, et notamment des matériaux de construction, en clair, des briques de déchets de lin qui permettaient de construire des murs, par exemple, parce que c'était isolant, c'était résistant au feu. Voilà, il y avait pas mal d'un point de vue thermique, c'était aussi assez intéressant. Et donc là, on est aussi dans une piste de valorisation des déchets. Et c'est totalement ingénieux parce que on a bien sûr des biocarburants qui sont assez intéressants parce que ça nous permet d'avoir... des carburants verts, entre guillemets, mais il y avait tellement de déchets à gérer qu'on mettait un petit peu ça sous le tapis, alors que ça peut être une manne vraiment intéressante. Et donc, je suppose que c'est un petit peu l'une des pistes qui est évoquée ici pour essayer de produire un équivalent d'huile de palme, parce que là, on parle également de déchets, on parle de, à New York, là, cette entreprise de New York qui parle aussi de fermentation de déchets alimentaires. Alors après, à voir comment, après, ça peut être consommable, entre guillemets. Mais en tout cas, on est vraiment sur l'idée de valoriser des déchets, et je trouve ça ingénieux, parce que ça peut être utile. Faut pas se leurrer, Les gens, ils achètent toujours une pâte à tartiner qui commence par nu et qui finit par tela. Il y a de l'huile de palme. Mais les gens s'en foutent, ils l'achètent quand même.
Bah surtout qu'en plus, après pareil, les industriels travaillent leur image, travaillent leur communication pour aussi inciter les consommateurs. Mais donc c'est évident qu'en tout cas, tout ce qui va comme ça concerner la réutilisation des déchets, de toute façon, mais même pas que dans le secteur de l'agroalimentaire, ça va être super important pour la suite, on le voit de plus en plus. Donc non.
Mais... Là, c'est une pièce intéressante, parce que c'est vrai que l'huile de palme, on sait que c'est un problème, mais ça s'arrête là, dans le sens, c'est un problème. Donc ils essayent de trouver des alternatives, on voit, parce qu'on reste toujours dans les pâtes à tartiner, j'ai vu des pâtes à tartiner à base d'huile à base de coton, je crois, enfin d'huile de coton, un truc comme ça, enfin... Ils essayaient de trouver des végétaux alternatifs, oui, mais le problème, c'est que la texture n'est pas la même. Donc du coup, il y a des problématiques de conservation, de stockage, de transport ou autre. Enfin, il y a plein de choses qui font que, ben non, le meilleur, c'est celui qui a l'huile de palme, parce que c'est ce qui correspond le mieux au principe de conservation à température ambiante. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc tant qu'on n'a pas trouvé une alternative qui ait les mêmes caractéristiques, mais qui soit de façon une production plus vertueuse, ben on cherchera encore. Et donc là, les Écossais donnent une piste qui semble être intéressante apparemment. Mmh. On n'en sait pas plus, bien sûr, mais voilà, ça donne une piste qui permet de voir ce qui est possible de faire dans ce domaine-là, bien évidemment.
Ça nous donnera, ça nous donne envie justement de suivre ça et de voir ce qui se fera par la suite. Ce qui est sûr, c'est que sur ces fameuses déforestations qui ont eu lieu en Indonésie et qui ont été dramatiques, et notamment pour les primates, on se souvient, moi j'ai beaucoup suivi aussi les tentatives après de conservation et d'accompagnement sur la faune sauvage, parce que c'est terrible, il y a des images terribles qui sont passés dans les médias à ce moment-là, c'est qu'il faut du temps, c'est pareil, hein, ça fait à peu près une dizaine d'années, et enfin, j'allais dire, c'est en train d'évoluer, c'est en train de s'améliorer, mais il y a encore des stigmates énormes de cette production intensive.
Tout ça m'a donné faim, on va donc...
Parce que c'est la fin de... Et il est l'heure d'aller
Il est l'heure d'aller déjeuner. Bon appétit à tous. On se retrouve samedi prochain, Carole.
Oui, samedi prochain, je serai là.
Une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite une bonne semaine et vous restez bien sûr fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Sur graphite.net, vous aurez la possibilité de récupérer tous les podcasts. Bonne journée.
Bonne journée.
À bientôt, au revoir.